Bonjour, bonjour, Yves au micro, micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à son ton sinistre et au fait de rappeler ou d'enseigner, mais non, on n'a pas un ton si sinistre que ça, de rappeler ou d'apprendre que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, pertinente ou un peu moins, mais uniquement pertinente dans 24 notes secondes, les petites images qui bougent depuis la fin du 19e siècle. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons nous reporter bien avant le 19e siècle. Nous allons rester dans notre bonne terre de France et nous allons évoquer quelques films français bien de chez nous qui évoquent justement l'histoire de France. Celle-ci est souvent malmenée dès qu'elle est portée à l'écran, notamment par des cinéastes américains pour lesquels un Français, en tout cas un Français d'aujourd'hui, a forcément une baguette sous le bras, un béret sur la tête et monte dans sa déesse s'il est riche ou s'en a deux chevaux s'il est pauvre. Et oui, ils pensent encore comme ça. Mais qu'en est-il quand ils évoquent les amours de nos rois ou autres ? En l'espèce, on va rester en France, ce qui d'ailleurs, il faut bien l'avouer, ne garantira pas toujours une profonde exactitude historique au film que nous allons visiter. Le premier d'entre eux, il n'y aura pas d'ordre chronologique dans ces films-là, il s'agit d'un film de Bertrand Tavernier, tourné en 2010, intitulé « La princesse de Montpensier ». Un film dont l'action se déroule entre 1567 et 1572, sous le règne de Charles IX, mais vous vous en souveniez certainement, juste après la fin de la régence, incarnée par la redoutable Catherine de Médicis, et juste avant le début des guerres de religion, et notamment du massacre de la Saint-Barthélemy dans la nuit du 24 août 1572. Mais de ça aussi, vous vous souveniez, c'est sûr. Le film est inspiré d'une nouvelle écrite par Madame de Lafayette, intitulée bien évidemment « La princesse de Montpensier ». En gros, eh bien, c'est une histoire d'amour avec quelques-uns des jeunes acteurs et actrices les plus courus de ces années 2010. En l'espèce, la délicieuse Mélanie Thierry, qui joue le rôle de Renée d'Anjou, princesse de Montpensier. Gaspard Huliel, qui joue le rôle du duc de Guise, surnommé le Balafré. Et Grégoire le prince Ringuet, rien que son nom déjà fait noble, qui incarne, lui, Philippe, prince de Montpensier. Ma foi, le résultat est plutôt réussi. Bertrand Tavernier réussissant à trousser, si vous me passez l'expression, un film un peu dans la tradition d'Alexandre Dumas, des Trois Mousquetaires et ce genre de choses, ce qui n'est pas un hasard, puisque une quinzaine d'années, avant d'avoir tourné La princesse de Montpensier, l'homme avait tourné La fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau, dont les fidèles de 24 notes secondes savent que j'ai un très, très gros faible pour elle. La musique de La fille de D'Artagnan, elle était signée de Philippe Sardes. Eh bien, il se trouve que celle de La princesse de Montpensier, pardon, elle est aussi signée Philippe Sardes, un des vieux routiers du cinéma français. Et on en écoute un extrait dans 24 notes secondes. Un délicat, tout doux extrait de la bande originale de La Princesse de Montpensier, un film de Bertrand Tavernier, une musique de Philippe Sard, un film donc consacré à l'histoire de France au XVIe siècle. Alors, vous me permettrez une spéciale dédicace. On voyait dans ce film Lambert Wilson incarner le comte François de Chabannes, né à La Palisse, ma ville d'enfance, qui est toujours d'ailleurs administrée par le successeur du comte. La France éternelle, la France. On va maintenant évoquer, et alors là vous remarquerez l'à-propos de la chose, un film justement consacré au massacre de la Saint-Barthélemy qu'on vient juste d'évoquer. Un film tourné en 1994, donc bien avant celui de Bertrand Tavernier, par Patrice Chéreau, peut-être plus connu comme metteur en scène de théâtre et d'opéra que comme cinéaste et réalisateur, même s'il a réalisé un certain nombre de films et tous bienvenus. Un film intitulé « La Reine Margot », adapté d'un roman d'Alexandre Dumas Père et qui raconte la vie de Marguerite de Valois, dite Margot, incarnée ici par Isabelle Adjani, de ses noces avec Henri IV, interprété ici par Daniel Auteuil. Ses noces qui finirent par conduire au massacre de la Saint-Barthélemy, puisque les deux se marient en août 1572. Henri IV est un protestant, Henri de Navarre, mais comme il le dit dans une formule fameuse, Paris vaut bien une messe. Et donc, il épouse Marguerite de Valois, catholique, évidemment, fille de France, et surtout, fille de la diabolique Catherine de Médicis, incarnée par Virna Lisi dans le film de Patrice Chéreau. Les deux époux ne s'aiment pas, le mariage est de convenance, on l'a compris, il s'agit de ménager les susceptibilités catholiques d'un côté, et notamment l'influence de l'Espagne, et les susceptibilités protestantes, et notamment l'influence des Pays-Bas et des États du Nord. Ma foi, c'est plutôt raté, puisque après août 1572, la tension monte en France, jusqu'à ce que, un fatal jour de septembre, la chose éclate et que donc on aboutisse à cette boucherie de la nuit de la Saint-Barthélemy qui va marquer d'une manière durable la vie française et qui va conduire à des guerres de religion qui vont pendant plus d'une centaine d'années, ensanglanter la France. Les Cévennes, par exemple, furent une terre illustre de résistance protestante à l'oppression catholique. Mais je me dois de dire en toute intégrité que l'oppression, elle n'est pas toujours du côté de la même religion, si vous voyez ce que je veux dire. Le film avait un budget considérable pour l'époque de 140 millions de francs. En 1994, nous en étions encore au franc. Bref, il s'agissait d'un film un peu risqué. La critique fut mitigée, le public fut plus enthousiaste, puisque le film attira près de 2 millions de spectateurs dans les salles, malgré sa longueur, et qu'il fut nommé à plusieurs reprises au César, Isabelle Adjani recevant, c'était plus que mérité, il faut bien le reconnaître, celui de la meilleure actrice. La musique du film a été signée de Goran Bregovic, qu'on n'aurait pas forcément attendu dans ce rôle-là, puisqu'il est surtout connu pour être le compositeur fétiche d'Emir Kusturica. Mais ma foi, elle aussi, elle est bienvenue. Et donc, après cette longue présentation, on va écouter un long morceau. La Reine Margot, un film de Patrice Chéreau, dans 24 notes secondes.
Kenyesh arbester panim Ve'avot she'efshar
Oh,
De Goran Bregovic, alors effectivement d'inspiration très Kusturica, par contre pour un film de Patrice Chéreau, un film consacré au massacre de la Saint-Barthélemy qui n'a pas eu lieu en septembre 1572, comme je l'ai malencontreusement suggéré, mais le 24 août 1572, juste 6 jours après le mariage d'Henri IV avec Marguerite de Valois. Voilà, je cherchais, je m'y perds un peu parfois dans les rois. On va maintenant, et vous admirerez la continuité et la pertinence chronologique de cette émission, on va maintenant passer au XVIIe siècle, puisqu'on va évoquer un film mettant en scène l'amitié entre le roi de France de l'époque, en l'espèce Louis XIV le Grand, interprété de façon fort convaincante par Benoît Magimel dans le film, et les talentueux Lully et l'ingénieux, dit la petite fiche, ingénieux n'est pas le vocable que j'aurais utilisé, l'ingénieux Jean-Baptiste Poquelin alias Molière, respectivement interprété par Boris Terral dans le rôle de Lully et Tchéky Cario dans celui de Molière. Bref, un film beaucoup plus léger que le film précédent, réalisé par Gérard Corbiot en 2000, et qui est, il faut bien le dire, plutôt l'occasion d'une accumulation de scènes fort élégantes et fort musicalement réussies, puisque le roi Louis XIV se piquait d'être un compositeur et d'ordonner des ballets. Et évidemment, avec Lully et Molière, il avait des courtisans, de génie, certes, mais des courtisans. On écoute un extrait de cette bande originale. Alors, elle est normalement signé de Reinhard Goebel, mais je n'exclus pas, et les plus musicologues d'entre vous le relèveront, qu'il ne s'y mêle des Roland de Lully ici ou là. Le roi danse, mais dans 24 notes secondes. C'est beau, on aimerait savoir danser sur ce genre de musique, mais ça ne doit pas être facile à apprendre. Un extrait de la bande originale du Roi danse, un film de Gérard Corbiot tourné en 2000, tout simplement, consacré aux appétences musicales et théâtrales de Louis XIV. Et nous continuons, alors vraiment, l'enchaînement chronologique est top et purement hasardeux, avec un film qui est un petit écart puisqu'il n'est pas français, il est franco-nippo-américain, admiré. Je dirais La Constance des Trois, un film réalisé par Sofia Coppola, évidemment la fille de son papa, tourné en 2006, intitulé Marie-Antoinette, et qui est justement consacré à une vingtaine d'années de la vie de Marie-Antoinette, entre avril 1770, qui voit son arrivée au palais, au château de Versailles, pardonnez-moi, pour épouser le futur Louis XVI, jusqu'aux journées révolutionnaires d'octobre 1789. L'archiduchesse Marie-Antoinette est interprétée par Kirsten Dunst, qui fut en son temps la fiancée de Superman. Quant au dauphin Louis-Auguste, eh bien, il est interprété par Jason Schwartzman. Alors le tout était bien connu pour être un mélange de classicisme et de punk. Ma foi, c'était plutôt réussi, il faut le reconnaître. J'ai évoqué tout à l'heure la façon dont les Américains représentaient l'histoire de France, mais une fois qu'on avait accepté le parti pris, eh bien Marie-Antoinette fonctionnait. Et ça fonctionnait aussi musicalement, avec des extraits qui décoiffaient dans le contexte du XVIIIe siècle. On en écoute un. Marie-Antoinette, donc Sofia Coppola, dans 24 notes, seconde.
Thank you.
Là, comme ça, je dirais que c'est du Jean-Philippe Rameau, mais je n'en suis pas sûr. Un extrait de la bande originale de Marie-Antoinette, un film de Sofia Coppola, qui mêlait donc à Vivaldi et Rameau des choses qui pulsaient plus, comme Siouxsie and the Banshees, New Order ou encore Air. Il y avait même Marianne Faithfull dans le rôle de Marie-Thérèse d'Autriche, la maman de Marie-Antoinette. Bref, un film plutôt réussi. On va se quitter, alors là, vraiment, le sens du timing, avec un film intitulé Les adieux à la reine, Les adieux à la reine, pardonnez-moi, et qui racontait justement les derniers jours de Marie-Antoinette au palais de Versailles, pardonnez-moi, encore entre le 15 et le 18 juillet 1789. Même les plus jeunes d'entre vous se souviendront peut-être que le 14 juillet 1789, le peuple français avait pris la Bastille, où il n'y avait que 3 personnes, mais ça, c'est pas grave. Et que donc, entre juillet et septembre 1789, eh bien, la royauté sentit, comme l'on dit, le vent du boulet, même s'il fallut 4 ans encore avant de couper la tête à notre bon roi Louis XVI. Mais en tout cas, ces jours furent des plus tourmentés. Et donc, le film de Benoît Jacquot, adapté d'un roman de Chantal Thomas, racontait la chose. Cette fois, c'était Diane Kruger qui jouait le rôle de Marie-Antoinette. Elle avait à ses côtés un personnage fictif de jeune lectrice interprétée par Léa Seydoux. Et si le film fut sulfureusement accueilli, c'est parce qu'il accréditait une thèse jamais confirmée qui prétendait que Marie-Antoinette était bisexuelle et qu'en fait elle préférait les filles aux garçons. Il est vrai aussi, et après on écoutera un extrait, que son mari Louis XVI, pendant les premières années de son mariage, victime d'un dysfonctionnement érectile, n'avait pas pu, comme on dit, honorer la commande. Bref, la petite histoire rejoint souvent la grande. C'était le cas dans Les adieux à la reine. La musique du film, elle était signée du grand Bruno Coulet, et on en écoute un extrait dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you. Bye.